Les conférences du Collège de France.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis extrêmement honoré et heureux d'accueillir au Collège de France, au nom de l'Assemblée des professeurs, mon collègue et ami David Bell. Donc, quelques mots pour le. Donc, d'abord, qui va donner. Il est invité au Collège pour donner donc, ce cycle de 4 conférences sur la nouvelle histoire des Lumières, vous voyez ici. Donc, tous les lundis, à la même heure. Avec les 3 lundis qui suivent, chaque conférence sera suivie d'un moment de discussion. Donc, on fera tourner le micro. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à la fin de la séance. Alors, quelques mots de présentation. David Bell est professeur à l'université de Princeton. Il est sans conteste une des figures majeures aujourd'hui de l'historiographie des Lumières, de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Il est aussi figure importante de l'histoire de France telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle se pratique aujourd'hui aux États-Unis. Il a écrit de très nombreux livres. Il avait commencé sa carrière par un livre sur les avocats en France au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime et début de la Révolution, Lawyers and Citizens. Puis, quelques années plus tard, un livre très important, The Cult of the Nation, que m'avait. Pour ceux qui suivent le cours, vous m'avez souvent entendu le citer sur l'invention et la naissance du nationalisme dans la France du XVIIIe siècle et au début de la Révolution, là encore. Et puis, 2 livres traduits en français. D'abord, la première guerre totale sur la guerre totale à l'époque révolutionnaire et surtout napoléonienne, publiée en français en 2010 chez Champvallon. Et puis, plus récemment, en 2022, le culte des chefs, chez Fayard, traduit en 2022, un livre qui est une réflexion sur la question du charisme politique à l'époque des révolutions atlantiques. Et puis, évidemment, je passe sous silence grand nombre de recueils d'articles, ouvrages collectifs, parce que sinon on y serait encore demain matin. Donc, voilà donc déjà une œuvre extrêmement importante qui nourrit les travaux des 18e-istes. Et puis, depuis quelques années, David Bell prépare un livre dans lequel il présentera une nouvelle analyse, une nouvelle interprétation générale des Lumières comme courant, mouvement intellectuel européen sur la base des très nombreux renouvellements, des recherches en histoire sociale et culturelle depuis maintenant 40 ans, mais qui n'ont pas fait vraiment encore l'objet d'une véritable synthèse et mise en perspective. Et c'est ce qu'il va proposer donc dans ce livre à venir. Et nous avons beaucoup de chance puisqu'il va nous donner, lors de ces 4 conférences, la primeur de ce livre. Donc, nous en sommes très heureux et je voudrais simplement ajouter un mot pour dire que dans un moment où les Lumières sont particulièrement vacillantes de toutes parts et où les universités américaines en particulier font l'objet d'une attaque politique, idéologique, obscurantiste, d'une violence inédite, eh bien cette invitation prend à mes yeux une signification supplémentaire qui est le témoignage de notre solidarité inébranlable envers nos collègues américains pris dans cette tourmente. Voilà, donc David, je te cite maintenant la parole.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci, je tiens à remercier vraiment très, très vivement, très chaleureusement le professeur Antoine Lilti de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de vous parler, d'être là au Collège de France dans ce moment. Comme il le dit, très très difficile pour les États-Unis. Je tiens aussi à remercier Monsieur Roberto Paiva pour son aide dans la préparation de ces cours. Dans cette série de conférences, je veux explorer, comme Monsieur Lilti a dit, les liens entre les Lumières et les énormes changements économiques et sociaux qui ont caractérisé le XVIIIe siècle. Une première vague de globalisation, le développement du capitalisme, une révolution de la consommation, ainsi que la création de nouveaux espaces et de nouvelles institutions urbaines. Je vais vous montrer à quel point les Lumières étaient inextricablement liées à ces changements, à quel point les styles d'écriture et les idées des auteurs du XVIIIe siècle se développèrent de concert avec eux. C'est un projet qui n'a pas vraiment été tenté de manière sérieuse depuis assez longtemps. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les historiens de tendance marxiste ont soutenu que les Lumières étaient à la fois le miroir intellectuel et la justification idéologique de la bourgeoisie conquérante de l'époque moderne. Ainsi, pour citer Friedrich Engels, le royaume de la raison n'était rien d'autre que le royaume idéalisé de la bourgeoisie. Ou, plusieurs décennies plus tard, et de manière plus sophistiquée, Lucien Goldman, je cite, « Les catégories mentales des Lumières correspondent toutes, plus ou moins, à la structure de l'échange qui constitue à son tour le noyau de la société bourgeoise naissante. » Mais ces interprétations n'ont pas survécu à la démolition de l'idée même d'une bourgeoisie conquérante qui aurait mené ses conquêtes dès le début du XVIIIe siècle. Le dernier grand livre qui essayait d'établir un lien entre le capitalisme et les développements intellectuels de l'époque des Lumières était l'espace, le livre traduit comme la sphère publique de Jürgen Habermas, l'espace public, pardon, paru en allemand un an après ma naissance, déjà en 1962. D'ailleurs, ce n'est pas un livre qui traite de la pensée des Lumières, mais plutôt des pratiques de publicité critique qui permettaient aux bourgeois du XVIIIe siècle de mettre en cause les structures sociales et politiques de l'époque. Et son livre ne discute pas les courants de pensée principaux ni les œuvres majeures. Dans les années 1960 et 70, des historiens qui me sont chers ont défriché un champ nouveau dans l'histoire sociale des idées. Robert Darnton et Daniel Roche ont écrit des ouvrages fondamentaux sur le cadre social des Lumières. Mais ces ouvrages, rédigés au moment de la remise en question des thèses marxistes, soutenaient que ce cadre était fondamentalement conservateur et pré-capitaliste, qu'il reposait sur les privilèges et les richesses foncières de l'ancien régime français. Ces historiens avaient raison, d'ailleurs, de souligner à quel point les philosophes des Lumières, comme tous les sujets de la monarchie française, devaient composer avec ces structures de privilèges. En fin de compte, leurs travaux ont eux pour effet de renverser plus ou moins la thèse bien connue de Daniel Mornay. Celui-ci, dans son grand ouvrage « Les origines intellectuelles de la Révolution française », avait avancé que compte tenu de la popularité croissante des œuvres dites éclairées et de la présence grandissante des philosophes au sein des grandes institutions culturelles de l'État, les Lumières avaient fini par conquérir l'Ancien Régime. Selon Darnton et Roche, c'est plutôt l'inverse. C'est l'Ancien Régime qui aurait conquis les Lumières. Depuis la parution de ces œuvres pionnières, l'histoire sociale des idées s'est développée de manière prodigieuse. Au fil du temps, les thèses de Darnton et Roche ont été mises en question, corrigées et nuancées. La génération suivante a accordé davantage d'attention aux ambivalences et aux ambiguïtés de l'histoire sociale des Lumières. Ainsi, dans son premier livre, Antoine Lilti a suivi Daniel Roche en soulignant le caractère traditionnel et conservateur d'une institution clé de l'époque, le soi-disant salon. Mais dans son ouvrage suivant, Antoine Lilti a mis en exergue les transformations économiques qui ont rendu possible l'émergence de quelque chose de très moderne, c'est-à-dire la célébrité. En somme, l'histoire sociale des idées a profondément transformé l'image que nous avons des Lumières. Mais elle n'a pas engendré une nouvelle histoire globale du phénomène. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs historiens ont tenté l'expérience d'écrire une histoire des Lumières. Donc vous voyez beaucoup, hein? Dominique Poulot, Richie Robertson, Anthony Pagden, le poids lourd de la bande, Jonathan Israel, et d'autres encore. Cependant, ces ouvrages s'inscrivent pour la plupart dans le domaine de l'histoire des idées. Ils ne prennent pas en compte le cadre social des Lumières, et bien qu'ils proposent de nouvelles interprétations du mouvement, celles-ci restent pour la plupart idéalistes, déconnectées des conditions sociales et économiques dans lesquelles les Lumières ont émergé. Je ne vais pas m'attarder longuement sur ces conditions, car elles sont bien connues des historiens, mais je voudrais quand même rappeler quelques points très importants. Et dans cette première conférence aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur les changements économiques et je vais parler surtout de la France. Quels étaient ces changements ? Au moment de la grande critique des thèses marxistes, les historiens postulaient toujours que l'économie française du XVIIIe siècle était stagnante, prise dans le soi-disant piège malthusien. En fait, il n'en était rien. Entre 1700 et 1789, la croissance économique en France a atteint 60%, un chiffre modeste, bien sûr, par rapport à ce auquel nous sommes aujourd'hui habitués, mais suffisant pour déclencher des changements importants. Ainsi, en 1789, seulement 40% de la population adulte masculine française était désormais nécessaire pour pouvoir pourvoir aux besoins alimentaires de la nation. En parallèle, le commerce international de la France avait quadruplé pendant le siècle. Dans plusieurs secteurs économiques, une dynamique capitaliste s'est imposée. William Sewell, par exemple, a montré que dans l'industrie textile, une plus-value relative menant à un cycle de croissance vertueux était réalisée par les producteurs, non pas par l'exploitation du travail, mais par la stimulation de la consommation. Cette dynamique et la disponibilité des profits qui en résultaient ont poussé les entrepreneurs à imposer des pratiques capitalistes à travers les structures économiques archaïques du pays, comme une crue qui traverse une digue fissurée. Partout, des marchands et des artisans, avides de profits, déplaçaient leurs activités vers des zones exemptes des règles des corporations. Les études de notaires se transformaient en banques primitives. Des marchés gris s'établissaient avec l'approbation tacite des officiers royaux. La contrebande explosait. Et un résultat important fut ce que beaucoup d'historiens décrivent comme une révolution de la consommation. Des études détaillées des inventaires après décès ont permis de retracer la possession et l'usage du sucre, du café, du thé, des épices, des textiles, des céramiques, des meubles, des ustensiles ménagers, des médicaments et bien d'autres choses. Michael Quass, ici présent, a publié récemment une synthèse remarquable sur ce qu'il n'hésite pas à appeler une révolution de la consommation. Mais quel lien tout cela a-t-il avec les Lumières ? Pour répondre à cette question, je vais commencer par la présentation d'une personne qui, à première vue, n'avait pas grand-chose à voir avec ces changements. C'était un Parisien qui, autant que je sache, a vécu dans cette ville depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à l'âge de 76 ans, sans jamais la quitter. Il était bourgeois, certes, mais un bourgeois rentier, sans rapport direct avec le capitalisme commercial. Il appartenait à l'un des secteurs les plus traditionnels de la France de l'Ancien Régime, c'est-à-dire le barreau. À l'époque, les avocats n'avaient même pas le droit d'établir des factures. Il devait demander des honoraires. Cet homme était d'ailleurs un partisan dévoué de la monarchie française. Il n'a jamais rien fait qui aurait pu attirer l'attention désapprobatrice du censeur ou de la police. Mais voici mon argument. Même un tel homme peut nous éclairer sur les liens entre les Lumières et les transformations profondes que je viens d'évoquer. Cet homme est très connu, très peu connu de nos jours. Il s'appelait Claude Rigobert Lefebvre de Beauvray. Il est né en 1724. Son père était procureur au Parlement de Paris. Il fait ses études au Collège Mazarin, puis à l'Université de Paris. Il est reçu avocat en 1748. Cependant, il n'exerce jamais la profession de manière sérieuse. Il vit plutôt de ses rentes. Il ressemble aux héros de 1000 romans français, car si sa famille le destine à une carrière juridique, lui veut devenir poète. Il consacre la majeure partie de sa vie adulte à l'écriture, même après être devenu presque aveugle vers 1763. Il écrit beaucoup, de la poésie, un roman épistolaire dans le style de Samuel Richardson, un dictionnaire philosophique à la manière de Voltaire, une traduction du déiste anglais Anthony Collins et bien d'autres ouvrages. Vous avez ici sa bibliographie. Il aide à la création d'un périodique important. Dans l'un de ses ouvrages, il se qualifie de philosophe ou soi-disant tel, mais plus tard il dénonce, je cite, les hommes qui se proclament hautement eux-mêmes philosophes cosmopolites pour se dispenser d'être citoyens. Depuis la fin des années 1750, il abandonne la poésie et proclame que les véritables hommes de lettres ne peuvent plus se borner aux choses d'agrément. Désormais, ils doivent étudier la politique économique et apprendre à faire réfléchir leurs lecteurs, et je cite, « de la manière la plus avantageuse à la société ». Comme il le dit, « le règne des choses utiles est venu ». C'est une citation. Contraire à la plupart de ses collègues du barreau, Lefèvre de Beauvray ne soutient pas les parlements contre Louis XV. Une chronique de la vie politique et sociale qu'il rédige dans les années 1780, mais qu'il ne parvient pas à publier, soutient fortement la position du ministère de Calonne vers la fin de l'Ancien Régime. Malgré tous ses efforts, il n'atteint pas le succès littéraire dont il rêve. Le Baron Grimm fait une recension méchante de son roman. Ses autres ouvrages reçoivent au mieux de courtes notices dans des périodiques littéraires. Il est donc resté dans la foule des aspirants à la gloire qui grouillaient devant les portes de la République des Lettres. Grâce aux travaux de Robert Darnton, l'image que nous avons de ces hommes est celle d'écrivains qui tiraient le diable par la queue, écrivant des libelles et de la pornographie, agissant comme espions pour la police, couvant des ressentiments contre les classes privilégiées et préparant ainsi la Révolution française. Mais tout aussi souvent, sinon de manière aussi pittoresque, ces écrivains étaient des bourgeois respectables, vivant de leur rente ou de l'exercice d'une profession, et très souvent publiant leurs ouvrages à leurs propres frais. Lefèvre de Beauvray était ce genre d'écrivain. Sa dernière publication date de 1770, il est mort en 1800. Son histoire est un peu triste, et sa personnalité présente des traits à la fois curieux et tragiques. Pourtant, et c'est quelque chose qui est amusant, cet homme qui rêvait de gloire littéraire a en fait écrit quelques lignes de poésie qui étaient vouées à être connues dans le monde entier. Et vous les connaissez vous-même, j'en suis sûr. Mais il n'en a jamais reçu le crédit. En 1757, en pleine guerre de 7 ans, ce partisan acharné de la monarchie française publie une sorte de réquisitoire poétique contre la nation anglaise, à qui il s'adresse à la deuxième personne du singulier. Et à la page 11 du poème, on peut lire ceci. « Va pour s'entre-détruire, armer tes bataillons, et d'un sang impur abreuve tes sillons. » Évidemment, 25 ans plus tard, le poème fut, il faut imaginer, découvert par Claude-Joseph Rouget de Lisle, qui, sans vergogne, plagia ses vers dans le refrain de son chant de guerre pour l'armée du Rhin, que nous connaissons bien sûr sous le titre de « La Marseillaise ». Jusqu'à ce que je découvre le vol en 1995, pourtant personne n'était au courant. Et je ne sais pas si Lefèvre de Beauvray a jamais découvert ce plagiat. Nous savons beaucoup de choses sur lui. Tout d'abord, il y a ses écrits, y compris sa volumineuse chronique manuscrite des années 1780. Et puis, il y a sa correspondance. Lorsqu'il était au Collège Mazarin, il a créé, avec un groupe de camarades de classe, une société qu'ils appelaient les Morozov. En grec, ça signifie les sages fous. L'un de ses camarades, Pierre-Michel Hénin, est devenu diplomate, et au cours de sa longue carrière, avec des postes à Varsovie, à Dresde, à Genève, Hénin a continué à échanger des lettres avec ses camarades Morozov. Il a conservé des dizaines de lettres de Lefèvre de Beauvray qui font désormais partie du volumineux fonds Hénin à la bibliothèque de l'Institut. Et je suis d'ailleurs redevable envers mon collègue et ami Arnaud Aurin et mon ancien élève Benjamin Bernard qui m'ont dirigé vers cette correspondance précieuse. Mais cet avocat au Parlement, cet auteur frustré, comment peut-il illustrer le rapport entre les énormes changements sociaux du XVIIIe siècle et les Lumières? Je vais vous le dire, mais avant de retourner à Maître Claude Rigobert, Lefèvre de Beauvray, je dois tout d'abord poser cette question. Qu'est-ce que l'imprimé dans une société de consommation? Évidemment, réponse numéro 1, l'imprimé est lui-même un produit de consommation, quelque chose qui est vendu sur le marché. Certes, la France, dans l'Ancien Régime, n'avait pas de marché libre, et la librairie relevait d'un système très complexe, tissé de privilèges et d'exceptions. Et certes, les philosophes du XVIIIe siècle se méfiaient du marché, ainsi que de ce que nous appelons de nos jours le grand public. Rappelons les mots de Diderot dans sa lettre à Falconet de 1766. Diderot méprise, comme il dit, la cohue mêlée de gens de toute espèce, et en revanche, il exalte ce petit troupeau, cette église invisible qui écoute, qui regarde, qui médite, qui parle bas et dont la voix prédomine à la langue. Cela dit, même les auteurs les plus connus ne pouvaient pas ignorer le marché ni s'en affranchir entièrement. Ils n'avaient pas le contrôle absolu sur la production et la vente de leurs ouvrages, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils subissaient eux aussi la pression d'écrire des choses qui seraient achetées, des choses qui plairaient au public. Et l'imprimé avait aussi un rôle clé à jouer dans la société de consommation. Face à une gamme de plus en plus large de produits, il fallait aux consommateurs des guides, c'est-à-dire des guides imprimés. Quel style était à la mode? Où trouver les produits de la meilleure qualité? Comment repérer les produits faux ou décevants? Et quels étaient les livres les plus importants et les plus intéressants? Les historiens de la presse et de la librairie ont retracé une énorme expansion du nombre de livres et de périodiques qui avaient pour but de répondre à ces questions au XVIIIe siècle et d'aider le consommateur à développer leur goût et à faire leur choix. Des revues littéraires, des affiches, des œuvres de référence et ainsi de suite. En France, le nombre de nouveaux périodiques est passé de 40 dans la première décennie du siècle à 98 dans les années 40, puis à 188 dans les années 1770. C'était le premier âge d'or de la critique culturelle, sa transformation en un genre distinct dont les auteurs prétendaient façonner le goût des lecteurs alors qu'ils naviguaient à travers une nouvelle profusion de productions culturelles. Une profusion de journaux était principalement composée de comptes rendus de livres, rédigés pour guider les lecteurs vers les publications les plus pertinentes et de meilleure qualité. Jamais auparavant, dans l'histoire de la France, les personnes instruites n'avaient eu accès à un choix aussi vaste de productions culturelles. Et jamais auparavant, les critiques ne leur avaient offert autant de conseils. Mais ces guides ne voulaient pas, pour la plupart, dicter aux consommateurs ce qu'ils devaient choisir. Une telle approche se serait avérée contre-productive. La relation entre l'imprimé et la consommation était beaucoup plus compliquée, et pour comprendre pourquoi, il faut considérer un peu plus la nature de la consommation elle-même au XVIIIe siècle. Trop souvent, les historiens de ce sujet ont tendance à mettre en exergue les critiques de la consommation telles qu'elles étaient formulées au XVIIIe siècle et telles qu'elles sont formulées de nos jours aussi. Ces critiques nous sont familières. La consommation encouragerait la frivolité et le gâchis. Elle distrairait les consommateurs de choses plus sérieuses. Elle appauvrit peut-être les consommateurs, à la fois matériellement et spirituellement, en les poussant à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin et qu'ils ne peuvent pas se permettre. Elle crée une illusion de choix, tout en enfermant tout le monde dans le même moule. Elle engendre une concurrence inutile entre les gens pour consommer le mieux et consommer le plus, et ainsi de suite. Sans contester la vérité de ces critiques, il faut reconnaître qu'elles ont été formulées à l'égard, avant tout, d'une partie seulement du monde de la consommation, c'est-à-dire la mode féminine. C'est la partie la plus facile à ridiculiser, tout comme les femmes sont plus facilement critiquées pour leur manque de sérieux. D'ailleurs, ni les auteurs du XVIIIe siècle, ni les historiens d'aujourd'hui, critiques de la consommation, ne prennent pas suffisamment en compte combien la mode peut être une chose sérieuse, l'expression méticuleuse d'un style et d'un goût personnel qu'il a fallu beaucoup de temps pour développer. L'historienne Jennifer Jones a montré que les tailleurs et les couturiers au XVIIIe siècle réclamaient avec raison le statut d'artiste. Et puis, la mode n'était que la partie la plus visible du monde de la consommation, qui comprenait bien d'autres choses. L'alimentation, les meubles, les décorations de maison, les médicaments, les produits religieux, les partitions musicales et bien sûr, les livres. Oui, on peut adresser les mêmes critiques à la consommation de ces choses-là. Mais en même temps, il faut prendre au sérieux le fait que l'achat d'une gravure pour le mur d'une maison, ou d'une partition, ou d'un médicament, ou d'un beau rosaire, ou d'un livre, ne relevait pas simplement de la frivolité, ni de l'avarice, ni du pur confort, ni du besoin de faire concurrence avec le voisin. Il peut y avoir de nombreuses raisons, en fait, de faire un achat. On achète un médicament pour se guérir, un rosaire pour devenir un meilleur chrétien, un livre pour s'instruire, pour s'inspirer, pour se consoler, et pas seulement pour distraire et s'amuser. Autrement dit, une grande partie de la consommation était dirigée vers l'amélioration spirituelle et non seulement matérielle du consommateur, vers la culture de soi. La culture de soi n'était évidemment pas un phénomène nouveau. Elle découlait naturellement des pratiques chrétiennes à travers lesquelles les hommes et les femmes s'efforçaient de se montrer dignes du salut. Il n'est pas surprenant que les deux plus grands récits du XVIIIe siècle sur la culture de soi, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau et l'autobiographie de Benjamin Franklin, proviennent tous deux d'hommes nés dans des cités-États profondément protestants, Genève et Boston. Mais contrairement aux pratiques religieuses intérieures, les formes de culture de soi au XVIIIe siècle concernaient principalement la vie dans ce monde et ils étaient beaucoup plus centrés sur les objets matériels. Elles permettaient aussi aux hommes et aux femmes beaucoup plus de liberté pour cultiver une personnalité individuelle et expressive plutôt que de se conformer à un modèle idéal unique. Comme l'a souligné ma collègue Sophia Rosenfeld dans son nouveau livre, le XVIIIe siècle marque le début de l'âge du choix personnel grâce précisément à la naissance de la société de consommation. Voici le contexte dans lequel je crois qu'il convient de situer les Lumières. Il va sans dire que la pensée des Lumières ne peut en aucun cas être comprise comme un simple reflet de pratiques sociales et économiques. Elle avait, bien sûr, des racines intellectuelles, intellectuelles profondes et complexes. Mais il y a une différence entre expliquer la genèse intellectuelle d'un ensemble d'idées et expliquer pourquoi certaines idées s'imposent et d'autres qui ont les mêmes racines ne s'imposent pas. Les idées s'imposent en raison du caractère propice du contexte social, politique et culturel. Ce contexte influence également la forme prise par ces idées et la manière dont elles se développent par la suite. Au XVIIIe siècle, les auteurs trouvent un public particulièrement réceptif parmi les lecteurs dont la participation à la nouvelle culture de consommation les amener à adopter de nouvelles formes d'autonomie personnelle et de culture de soi. Et la réaction de ces lecteurs ne passait pas inaperçue, car, comme l'a montré Robert Danton et d'autres, les éditeurs s'engageaient de plus en plus dans des études de marché en suivant la demande pour certains titres et thèmes et en commandant de nouveaux ouvrages sur cette base. Depuis plusieurs années, la plupart des historiens reconnaissent que les Lumières relèvent en grande partie d'une série de réflexions sur les profonds bouleversements liés à la première mondialisation, à l'essor du capitalisme et de la société de consommation, ainsi qu'à la remise en question de la société d'ordre. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Les Lumières ne se contentent pas de réfléchir sur ces sujets, sur ces changements. Elles y participent pleinement. Elles en sont partie intégrante. À cet égard, les styles et les genres des auteurs des Lumières françaises peuvent être vus comme une preuve en faveur de cet argument. Et je cite ici les mots d'Antoine Lilti dans sa leçon inaugurale, ici même, « Les Lumières sont aussi un style ». Bien plus que lors des périodes intellectuelles précédentes, ces auteurs poussaient leurs lecteurs à s'engager activement avec leurs textes, à faire le plus grand usage possible de leur propre esprit, de leur propre lumière. Les auteurs ont très souvent conçu leurs ouvrages sous forme d'énigmes, de jeux, de mystères et de paradoxes. Les intrigues des contes de Voltaire, par exemple, reposent souvent sur ce que l'historienne de lettres Jennifer Tsien appelle des moments de perplexité qui mettent les lecteurs au défi de trouver la solution avant que l'auteur ne la révèle. Diderot adorait la forme du dialogue qui incitait ses lecteurs à évaluer des points de vue apparemment opposés. Montesquieu laissait entendre qu'une chaîne secrète lier les chapitres apparemment désorganisés de ces lettres persanes. Il y avait bien sûr une vogue pour les dictionnaires et les encyclopédies qui pouvaient être lus à la guise des lecteurs, suivant un chemin déterminé par leur propre goût et intérêts, aidés par les renvois. Ce genre, l'ouvrage de référence, est encore plus important dans la mesure où il offrait aux lecteurs les outils et les ressources pour s'instruire eux-mêmes, pour se cultiver, pour s'améliorer. Sans même parler de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il faut remarquer que le genre du dictionnaire s'est considérablement développé au XVIIIe siècle, avec près de 6 fois plus d'ouvrages contenant le mot de dictionnaire dans leur titre, publiés entre les débuts du siècle et la Révolution française que durant le siècle précédent. Le mot dictionnaire lui-même a vu son usage multiplié par 20 dans les textes entre 1738 et 1788. Le marché des livres pédagogiques s'est élargi et est devenu une véritable catégorie éditoriale. Le style du soi-disant goût moderne, cher à tant d'auteurs du XVIIIe siècle, était lui-même, comme l'a soutenu l'historienne de la littérature Elena Russo, une invitation au lecteur pour entretenir un dialogue intérieur avec les auteurs. Ce style, ce goût moderne, était intime et ludique. Il prenait l'esprit, la théâtralité et la remise en question des formes littéraires traditionnelles. Ces auteurs se délectaient d'énigmes, de jeux et d'une subtile autoréférentialité. Il était mondain et profondément social. Voltaire a résumé parfaitement ses manières d'écrire dans la préface de son dictionnaire philosophique. Et je le cite. « Les livres les plus utiles, dit-il, sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. » Les livres les plus utiles dont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Ils étendent les pensées dont on leur présente le germe. Ils corrigent ce qui leur semble défectueux. Ils fortifient par leur réflexion ce qui leur paraît faible. Je ne prétends pas que ces modes d'écriture étaient tout nouveaux au XVIIIe siècle, bien sûr que non. Mais il y avait une intensification des formes d'écriture ouvertes à la participation, au moins imaginée, des lecteurs. Il va sans dire que ce glissement vers les pratiques qu'on a appelées extensives a un rapport évident avec la révolution de la consommation. Et j'ajoute tout simplement que ces nouvelles pratiques donnaient beaucoup plus de liberté aux lecteurs quant au choix des lectures et à la manière de les aborder. Comme les historiens de la dernière génération l'ont montré avec une grande richesse des détails, les lecteurs ont effectivement répondu à ces invitations des auteurs et se sont empressés de participer à des dialogues réels ou imaginaires avec les auteurs des Lumières. De la manière la plus directe, ils ont envoyé des lettres à leurs auteurs préférés. Comme l'a montré l'historienne Elizabeth Bond, ils ont adressé des lettres à des périodiques en réaction à des articles et des critiques, dans l'espérance que ces lettres elles-mêmes soient publiées. Ils participaient aux concours organisés par les académies savantes. L'historien Jeremy Caradona, qui a écrit l'histoire la plus approfondie de ces concours d'académies, montre que plus de 40 académies françaises ont proposé des centaines de prix au XVIIIe siècle et ont reçu des milliers, voire des dizaines de milliers, de dissertations en réponse aux questions qu'elles posaient. Parce que les académies jugeaient ces contributions généralement de manière anonyme, des candidats, même des candidats issus de milieux modestes, avaient une véritable chance de gagner et de lancer une carrière littéraire, comme Jean-Jacques Rousseau, l'abbé Grégoire et tant d'autres. Je pourrais aussi mentionner l'historienne Megan Roberts, qui est engagée dans un projet qui montre à quel point les médecins français du XVIIIe siècle voulaient augmenter leur autorité, encore une fois, par le chemin de l'imprimé et de la participation dans les débats publics. À ces formes de participation directe dans la sphère publique, il faut ajouter d'autres pratiques qui ne relevaient pas de l'écriture, mais qui donnaient aux lecteurs l'impression d'être des participants actifs, des participants qui façonnaient en partie les livres qu'ils lisaient. Je vais mentionner 3 exemples. Tout d'abord, les livres de raison, très en vogue à la fin du XVIIIe siècle, dans lesquels les lecteurs pouvaient littéralement copier et coller les passages de livres qui les avaient le plus profondément touchés, créant ainsi de nouveaux ouvrages. Deuxièmement, les sociétés littéraires, où les participants discutaient de leur lecture et réciter des vers qu'ils avaient eux-mêmes composés. L'un des exemples les plus connus est celui des Rosati d'Arras, fondé en 1778 et qui comptait parmi ses membres Robespierre et Carnot. Et troisièmement, des lieux de rencontre moins formels où les gens pouvaient échanger sur leur lecture, notamment des cafés, des bibliothèques, des académies et ainsi de suite. Entre 1759 et 1789, les historiens ont recensé 13 salles de lecture communes en activité à Paris, 36 en province. Vous voyez ainsi à quel point les institutions, les pratiques et même les styles des Lumières françaises portaient l'empreinte des changements sociaux du siècle, et en particulier de la révolution de la consommation qui renforçait l'autonomie personnelle et les possibilités de la culture de soi, d'un public large et croissant. Pour ce public, la lecture ne prenait pas une forme passive, tout comme la consommation ne prenait pas la forme d'une acceptation passive de biens choisis par d'autres. Elle impliquait une participation active. Les hommes et les femmes choisissant parmi différents produits culturels, exprimant leurs opinions à leur sujet et tentant de diverses manières de participer à leur production. Ce public restait certes restreint par rapport à la population dans son ensemble. Il comprenait seulement ceux qui disposaient d'une éducation et de ressources suffisantes pour accéder à une variété de livres et de périodiques. Dans l'ensemble, seuls les hommes urbains pouvaient y participer pleinement, et des hommes urbains avec une certaine richesse. Mais ce public était tout de même bien plus vaste que le public lecteur des siècles précédents. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette conférence « Les Lumières, entreprise publique ». Je ne vais pas poursuivre ici les réflexions sur le rapport entre ces pratiques de lecture et de participation d'une part, et la pensée des Lumières dans toute sa diversité d'autre part. Ce sera le sujet des conférences que je vais donner dans les semaines à venir. Mais pour terminer aujourd'hui, je voudrais revenir à mon pauvre poète, Claude Rigobert Lefebvre de Beauvray, et je voudrais montrer combien cet homme, un bourgeois rentier, un avocat, son client, un homme en somme qui n'avait rien d'un capitaliste, illustre néanmoins les transformations de la vie intellectuelle que je viens de décrire. Tout d'abord, considérons Lefebvre de Beauvray comme écrivain. Pour commencer, il faut noter que Lefebvre de Beauvray est à l'écoute du marché. Ses premiers pas dans le monde des lettres sont ceux d'un poète. Très jeune, il écrit aussi un très long essai sur l'histoire du corps humain, tout à fait dans le style du goût moderne, ludique, enjoué, intime, discontinu. Mais vu le goût pour les livres philosophiques anglais, il apprend l'anglais, comme Diderot et d'autres d'ailleurs, et il publie une traduction du livre du déiste Anthony Collins sur la liberté humaine. Et cette traduction est bien reçue de ce côté de la Manche. Lefebvre de Beauvray aura une relation ambivalente, c'est le moins que l'on puisse dire, avec l'Angleterre, dont il déteste la politique, mais adore la littérature. Au moment où les romans épistolaires anglais gagnent en popularité en France, il essaie même d'en écrire un, l'histoire de Miss Honora, l'histoire de Miss Honora ou le vice dupe de lui-même, qu'il réussit à faire publier à Amsterdam en 1766. Il publie son poème féroce contre l'Angleterre en 1757, mais 6 ans plus tard, à la paix, appelle à la réconciliation de ce qu'ils appellent, et je cite, « deux nations rivales par les talents unis et mules de tout temps, trop souvent ennemis ». Enfin, comme j'ai dit, il est tout à fait attentif à la vogue pour la politique économique. Il insiste sur le fait que ce sujet est devenu plus important que la littérature. Il s'engage donc très tôt dans le monde du journalisme. Comme l'a montré Arnaud Orin, au début des années 1750, il est impliqué aux côtes de son camarade Morozov, l'économiste Georges-Marie Butel-Dumont, dans la création du journal économique. Ce journal deviendra par la suite l'organe du Cercle de Gournay et sera publié pendant une vingtaine d'années. Lefebvre lui-même publie des lettres dans plusieurs journaux littéraires. Il est tout à fait conscient des changements qui surviennent dans le monde intellectuel de son temps. Et je cite son essai de jeunesse publié déjà en 1756. Je cite « C'est ainsi » que les lumières et les connaissances concentrées auparavant dans un petit nombre de têtes se sont, pour ainsi dire, propagées et propagent tous les jours. Donc, les lumières qui étaient concentrées auparavant dans un petit nombre de têtes sont propagées et propagent tous les jours. Il s'engage également dans le monde de la critique. En 1756, il publie un petit pamphlet sur l'état actuel des beaux-arts et de la littérature en France, où il exprime des opinions très dures sur le sujet. 14 ans plus tard, son dictionnaire social et patriotique constitue en partie un recueil de critiques littéraires et artistiques. Par exemple, voici ce qu'il dit de Jean-Jacques Rousseau. Il appelle « l'homme le plus élégant de son siècle ». Il faut avouer aussi qu'il en est le plus inconséquent. Oups. Ce dictionnaire est lui-même un ouvrage considérable de presque 600 pages et son but explicite est, et je cite, « d'éclairer et d'orner l'esprit et de former le cœur ». Comme je l'ai déjà mentionné, le genre du dictionnaire était en pleine expansion et il offre aux lecteurs des ressources pour s'instruire et leur laisse la liberté d'écrire ici, de lire ici et là, à leur gré, en somme, de composer, pour ainsi dire, son propre livre. En tant qu'écrivain, Lefèvre de Beauvray participe aussi pleinement au changement que j'ai discuté dans cette conférence. Mais ce qui est encore plus intéressant que Lefèvre de Beauvray écrivain, c'est Lefèvre de Beauvray lecteur, et c'est sur ce point que je vais conclure. Nous en savons beaucoup sur son expérience en tant que lecteur, grâce à sa participation dans cette société de Morozov et à sa correspondance avec son ami Henin. À mon avis, cette correspondance est aussi précieuse comme source pour l'histoire de la lecture au XVIIIe siècle que, par exemple, les lettres du négociant Rochelet Jean Ranson, étudiées par Robert Darnton dans son essai sur les lecteurs de Rousseau, ou, par exemple, les journaux intimes de l'Écossais George Redpath, étudiés par l'historien écossais Mark Towsey. Et à titre d'illustration de Lefèvre de Beauvray lecteur, j'aimerais examiner une seule lettre écrite par lui à Henin le 26 mars 1749. C'est une lettre très longue, presque 5000 mots. Elle est écrite dans un style ludique et enjoué, plein de jeux de mots et de dialogues imaginaires. Le premier de ces dialogues est avec Henin à propos du sujet même de la lettre. Je cite « De quoi s'agit-il, diras-tu ? Sur quoi doit rouler cette belle dissertation que tu annonces depuis le commencement de cette lettre et dont tu t'éloignes toujours davantage par tes digressions ?» Il imagine Henin qui lui parle. Et puis il répond lui-même à Henin qu'il ne s'agit de rien de moins que de faire quelques réflexions au sujet de l'esprit des lois de M. le président de Montesquieu. Les deux amis avaient déjà parlé du livre de l'esprit des lois. Et enfin, Lefèvre de Beauvray avait réussi à en obtenir un exemplaire. La lettre relève en grande partie d'une critique détaillée et assez mitigée, parfois même un peu méchante, du livre de Montesquieu. Lefèvre lui-même écrit ceci, je cite, « Je sais combien je suis téméraire d'entreprendre de critiquer un livre dont je ne vois partout que des panégyristes. Mais c'est justement parce que je l'estime véritablement que j'ose lui trouver des défauts et ne pas le louer aveuglément. » Fin de citation. Lefèvre apprécie bien des choses dans le livre. À propos des principes généraux développés dans les premiers chapitres de l'Esprit des lois, il dit, et je cite, « On découvre un génie qui voit tout et qui le voit bien. Rien ne lui échappe. » Lefèvre parle aussi, et je le cite encore, « des nouvelles lumières que j'ai acquises sur notre histoire, l'histoire française, et sur cette prétendue loi salique touchant la succession à la couronne. » Mais il a aussi des reproches à faire. Il dit que le style de Montesquieu est trop lâche ou trop négligé. À propos des raisonnements du juriste sur les origines du tabou contre l'inceste, Lefèvre commente « Voilà bien du verbiage pour ne rien prouver ». Lefèvre n'est pas d'accord avec l'argument selon lequel les monarchies sont plus tournées vers l'agrandissement que les républiques. Il se plaint de l'ennui qu'il ressent vers la fin de l'ouvrage. Je cite « Le 26e livre est vraiment l'âge décrépit de l'auteur. Il y rêve, il y radote. » Surtout, Lefèvre proteste contre l'idée de Montesquieu selon laquelle la religion serait nécessaire, je cite, « pour conduire un peuple policé et éclairé ». Et il n'aime pas du tout la critique que Montesquieu adresse à Pierre Bayle sur ce point. toujours sous l'influence du déiste anglais qu'il avait traduit, et tenté peut-être par le matérialisme. Lefebvre de Beauvray répond longuement à Montesquieu ici, et il offre, comme exemple d'un peuple vertueux, sans religion, les serrères de l'Afrique de l'Ouest, dont il avait sans doute lu la relation dans les voyages de l'abbé Prévost. Il va sans dire que la lettre de Lefebvre à Hénin n'est ni la seule ni la première critique de l'esprit des lois écrite peu après sa publication. Évidemment pas. Montesquieu lui-même semble avoir invité à ce que l'on critique, et je cite ici la défense des esprits des lois écrite par Montesquieu. Il est très permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public parce qu'il serait ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas être éclairés eux-mêmes. L'historien américain Gary Keats vient de publier tout un livre sur la réception des chefs-d'œuvre et des Lumières, dans lequel il consacre tout un chapitre aux critiques contemporaines de Montesquieu, dont celle remarquable écrite par la salonnière Louise Dupin. Mais ces critiques, soigneusement rédigées et ensuite imprimées, nous révèlent beaucoup moins sur l'expérience de la lecture que des documents écrits à la hâte, au cours même de la lecture. Je vous renvoie à l'historien de la lecture Robert de Maria, qui souligne l'importance de ces sources documentaires comme Marginalia, carnet de notes, livre de raison, journaux intimes, anecdotes ou lettres. Pour l'époque des Lumières, ce genre de source est assez rare. La lettre de Lefebvre ici rassemble ici aux notes de l'Écossais Redpath, étudié par l'historien Towsey, et ce que Towsey appelle, et je cite, « sa manière remarquablement explicite de chroniquer, d'évaluer et d'assimiler ses expériences de lecture ». Parmi les sources documentaires françaises de l'époque, les mieux connues sont sans doute les lettres dont j'ai parlé brièvement, du Rochelet Jean Ranson à son libraire concernant les lectures qu'il a faites de Jean-Jacques Rousseau. La lettre de Lefebvre ne ressemble en rien à celles-ci qui sont prises parfois comme illustre parfaite de la lecture au XVIIIe siècle. Ranson adore Rousseau. Il lit l'Émile comme il lit la Bible. Il suit sans question tout ce que Rousseau lui dicte. Il n'aimait pas la moindre critique. En revanche, comme vous venez de le voir, Lefebvre de Beauvray n'est pas du tout respectueux du livre qu'il lit. Il le dissèque, il se plaint de lui, il veut l'améliorer. Et voici l'une des choses les plus frappantes. À plusieurs moments, il cesse de s'adresser à son ami Hénin et s'adresse plutôt à Montesquieu lui-même. Je cite « Il faut que je venge Belle, que vous avez la hardiesse de démentir. Et, monsieur de grâce, ne vous alarmez pas si fort pour le genre humain. » Fin de citation. Et il y a trois choses surtout que je voudrais souligner en analysant cette lettre et en essayant de la relier aux arguments que j'ai formulés sur les Lumières. Premièrement, Lefebvre de Beauvray est très clairement influencé par l'émergence d'une culture de la critique, où tout ce qui paraît en public, qu'il s'agisse d'un produit de consommation, d'une œuvre d'art ou d'un livre, est soumis au jugement du public par la voie des recensions écrites. Lui-même, lecteur avide de plusieurs périodiques, dont des périodiques anglais comme le Spectator, il énumère la liste dans son dictionnaire, il s'érige ici en critique de Montesquieu. Et pour un avocat inconnu de 24 ans, oser faire cela, même dans une lettre privée, est, comme il le dit lui-même, téméraire. Deuxièmement, la lecture qu'il propose n'est pas censée être privée pour lui seul, comme dans le cas du journal intime de Redpath. Il la réalise pour son ami, et a fortiori peut-être pour son groupe d'amis, les Morozov, qui s'échangeaient souvent des lettres entre eux. Je ne sais pas si c'était le cas ici. En écrivant un nain sur Montesquieu, il cherche à impliquer un nain dans la discussion, à lui plaire. Il veut même le séduire. Il n'est pas sans intérêt de noter que un nain, bien que plus jeune que Lefebvre, appartenait à un rang social nettement plus élevé que ce fils de procureur. Aussi, les lettres de Lefebvre respirent-elles l'anxiété quant aux réactions de son ami. Il souhaite créer un lien intense et très masculin en badinant, en jouant avec les mots et en échangeant des blagues privées. La correspondance de Hénin est en fait hautement sexualisée avec des références fréquentes aux liaisons féminines des Morozov. Et la lettre que je viens de discuter ne fait pas exception. En la terminant, Lefebvre dit ceci à Hénin. Pour racheter le sérieux de cette lettre et la clore par quelque chose de gai et de divertissant, je ne puis faire autre chose pour toi, mon cher ami, que de t'envoyer l'épigramme suivante. Elle roule sur le bon mot d'une dame touchant Thérèse, philosophe. Ici, Lefebvre fait référence à un autre livre à succès de 1749 qui s'appelait, assez différent de l'Esprit des lois, qui s'appelait Thérèse, philosophe. Il était à la fois un tract matérialiste et un roman pornographique. L'épigramme en question raconte l'histoire d'une jeune fille qui lit le roman. Vous pouvez lire ici, si vous pouvez lire son autographie. Et je cite, « Je trouve qu'on ne peut le lire comme il faut que d'une main. » Je voudrais noter en passant qu'une grande partie de l'historiographie récente consacrée à l'histoire de la lecture au XVIIIe siècle porte sur la lecture faite par les femmes. Par exemple, les travaux de Sue Ellen Diakonoff ou de Dina Goodman et plusieurs œuvres collectives britanniques récentes. Mais il faut observer que les formes de lecture accessibles aux hommes étaient beaucoup plus variées que celles des femmes, étant donné la plus grande liberté dont ils jouissaient. La lecture féminine était beaucoup plus souvent une pratique solitaire et privée, tandis que la lecture masculine pouvait être à la fois beaucoup plus publique et aussi beaucoup plus explicitement sexualisée. Enfin, et une sexualité qui servait aussi à créer des liens entre les hommes, de les forger en société masculine. Enfin, il faut constater que le style de lecture de Lefebvre est celui d'un consommateur actif, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas passivement ce que l'auteur lui propose. Il fait des choix, comme le compilateur d'un livre de raison. Il suggère des changements, des améliorations. Il réécrit le livre à sa guise. Voici ce qu'il dit lui-même dans sa lettre, je le cite. « Peut-on s'empêcher de discourir avec un auteur qui vous donne encore plus à penser qu'il ne semble avoir pensé lui-même, un auteur qui réfléchit et qui vous laisse toujours matière à plus d'ample réflexion, qui ne dit pas tout ce qu'il y a à dire sur un sujet, qui ne l'indique et ne le fait entrevoir. C'est avec ces gens-là, véritablement, qu'on se trouve à son aise. Ils sont presque les seuls qui méritent qu'on se donne la peine de les suivre de près et de les relever quand elles font quelques chutes. » Je vous rappelle la citation de Voltaire, « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. » Voici, évidemment, un lecteur idéal pour Voltaire. Et je dirais même plus, voici le lecteur idéal des Lumières. Je ne veux pas prétendre que ce style de lecture n'ait jamais été pratiqué avant les Lumières, bien au contraire. Mais à l'époque des Lumières, un moment marqué par ces profonds changements sociaux et économiques que je viens de décrire, il devient courant, voire dominant, ce style de lecture. Un petit mot supplémentaire pour conclure. Évidemment, c'est Montesquieu lui-même qui offre, pour ainsi dire, une invitation à ce style de lecture. L'Esprit des lois n'est pas un livre qui prêche ou qui dicte. C'est un livre à première vue désorganisé, difficile à suivre, plein de détours, d'ironie, de petites blagues. Montesquieu est un adepte du goût moderne. Même en parlant des lois, il n'adopte pas le style de Rousseau, qui est celle de la tribune. Bref, l'Esprit des lois est un livre qui invite le lecteur à lutter avec lui, à entrer en dialogue avec lui. Lefebvre de Beauvray a accepté cette invitation. Et ce faisant, il nous a montré à quel point les Lumières ne sont pas simplement le reflet, mais je dirais plutôt le partenaire des changements sociaux et économiques que j'ai évoqués tout à l'heure. J'approfondirai ces réflexions, j'espère, dans ma prochaine conférence. Je ne continuerai pas à parler de Lefebvre de Beauvray, j'en ai déjà parlé un peu trop. Vous en êtes probablement déjà très là. Je parlerai plutôt de Montesquieu lui-même et d'un autre auteur beaucoup moins connu de ce côté du Rhin, mais dont les intérêts intellectuels recoupent les intérêts de Montesquieu de manière intéressante, le philosophe allemand Christian Wolff. En faisant une comparaison avec la France et l'Allemagne, je pourrais également aborder une question que j'ai laissée de côté aujourd'hui, celle des lumières multiples ou plurielles. Je monterai également un peu dans le temps, vers les premières années du XVIIIe siècle, les premières années des Lumières, et j'essaierai de vous montrer comment les changements économiques et sociaux que je viens d'évoquer se sont manifestés dans les débats autour d'un sujet qui était aussi, lui, au cœur des préoccupations de Lefebvre de Beauvray, c'est-à-dire la société elle-même. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.